Vraiment, Mi-Claire. Il y avait des millions de gens dans les rues pour fêter les Italiens.
Et ça, je me souviens de ces grandes photos. Ils les avaient mises dans le métro aussi, dans les stations de métro, ces photos où on voyait mais des quantités d'Italiens qui faisaient la fête dans la rue. Ce qui est assez étonnant parce que, tu te souviens, ça nous avait frappé comme... Au Canada, il y avait cette pudibonderie, on ne peut pas dire autrement, vis-à-vis de l'alcool. On n'a pas le droit de faire des terrasses.
Pareil qu'à Toronto, mais...
Enfin, dans le Canada.
Il y avait 500 ou 600 000 habitants dans ce quartier. Et on n'a pas le droit, on avait, mais je crois que c'est toujours la même chose.
Pas le droit
de boire de l'alcool en public.
Sur une terrasse, donc.
À Toronto. Donc, il y avait, c'était interdit pour un bistrot d'avoir une terrasse sur la rue, comme on a chez nous.
Comme on a ici à Martigny, oui.
Et c'était une interdiction qui était très respectée dans toute la ville, sauf dans le quartier italien, qui n'était pas une mince affaire, puisqu'il y avait 500 000 habitants en tout cas, où ça avait été absolument impossible d'interdire aux gens de boire leur canon sur la terrasse. Un Italien, il ne peut pas comprendre ça, quoi. Un Valaisan non plus, d'ailleurs. Et ils avaient dû faire une exception pour le quartier italien, où les bistrots avaient le droit d'avoir une terrasse, mais à condition qu'elles soient entourées d'une haie...
Voilà.
Pas nécessairement très haute, 50 cm ça suffisait, mais de façon à ce que l'honnête bourgeois respectueux des lois puisse identifier le salopard aviné qui
vivait de l'autre côté.
Il ne pouvait pas se passer de la terrasse.
Ça, c'était une des premières choses qui nous a frappé.
Chez ma soeur, enfin pas loin, il y avait un qui tenait un petit restaurant qui nous a expliqué tout ça. Et qui nous faisait de la cuisine du Val d'Os.
On était presque chez nous, là.
On connaissait très bien Martigny.
Oui. C'est fou, au Canada. Au Canada, oui, ouais, c'était très étonnant.
Ouais, partout. Après, on a été 10 ans après, on a été à Vancouver. À Vancouver, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, oui, 90.
Tiens.
Il y avait 9 ans.
Alors,
92. 10 ans après,
92.
Ouais. 92, l'alcool ne se vendait que... Mais quand je dis l'alcool, c'est même des bières, hein, pas seulement des bouteilles de vodka, etc. Se vendait que dans des magasins d'État qui n'avaient le droit de faire aucune publicité, d'avoir aucune affiche, rien du tout. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache où on pouvait acheter de l'alcool. Alors, et en plus, les gens, quand ils allaient acheter une bouteille, ceux qui savaient où étaient ces bistrots cachés, ces magasins cachés, quand ils sortaient, ils devaient mettre leur bouteille, ils devaient la cacher.
Oui.
Donc ils devaient la mettre dans un cornet en papier qu'on leur donnait à la caisse. Alors, ça, le but, c'était qu'on ne voit pas où étaient les magasins où on pouvait boire acheter de l'alcool, et puis qu'on ne voit pas qu'on avait acheté de l'alcool quand on sortait. Alors, tu avais dans les grandes avenues des magasins, des boutiques partout. Puis tout d'un coup, au milieu, tu avais un espace où il y avait des grandes vitres,
oui.
Mais des cartons derrière qui cachaient tout. Et puis, une porte où il n'y avait aucune indication, pas un horaire, rien du tout. Et tu voyais sortir de là comme un voleur, des types qui avaient un carton. C'était toujours le même cornet.
Des cornets en papier. D'emballage.
Donc, ces établissements-là, qui étaient destinés à être dissimulés pour qu'on ne sache pas, que les jeunes surtout ne sachent pas où on trouvait de l'alcool, c'était les seuls que tu voyais dans la rue. Tellement ils étaient atypiques.
Évident, oui, c'est vrai. Mais bon...
Et les gens qui avaient acheté de l'alcool, ils étaient immédiatement repérés parce qu'ils avaient tous le même cornet sur le bras.
C'est vrai, c'était pas
et
très
ces cornets-là, tu ne les trouvais pas dans les autres magasins, évidemment. Complètement ridicule.
Ça a été le premier étonnement, mais le deuxième, c'était la soirée où on a dû monter dans cette tour de la télévision, où on a cette énorme ville de Toronto sous les yeux. C'est ça, hein? C'est la tour de la télévision, si je me souviens.
J'ai aucun souvenir, c'est que ce soir-là, m'empoisonne.
Elle n'était pas bien.
Il a tenté.
C'était un restaurant français que ta sœur nous avait recommandé parce que c'était soi-disant français. Et puis alors, je sais pas.
Ça s'appelle...
C'était le nom.
J'ai mangé une omelette chez... C'est moi qui suis jamais malade. J'ai été malade, je n'ai pas digéré. Quoi. J'ai tenté de m'empoisonner.
Et après, on est parti du côté de l'Est. Pendant une semaine, on est allé se promener. On est parti en train, ça c'était très agréable comme départ en train de Toronto jusqu'à Montréal, non?
On a pris l'avion.
L'avion après, c'était pour aller à Terre-Neuve.
Mais on a d'abord été à Terre-Neuve ou on a été après à Terre-Neuve?
Je ne sais plus maintenant.
Mais quand on a été à Terre-Neuve, on est parti en avion depuis Toronto.
Oui.
On a fait le plus bel atterrissage qu'on ait jamais fait à Halifax.
Ouais, non, ça c'était...
Et puis après, on a été à Newfoundland, à Terre-Neuve, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'était fantastique. Ils venaient d'inaugurer un petit musée marin dans un phare. Un phare qui éclairait du côté de l'Europe. Et nous, on est arrivés 3 jours après l'inauguration. Et à l'inauguration, il y avait le prince Charles.
On n'a pas vu.
Non, parce qu'on est arrivé 3 jours après, puis ils avaient mis en place, à l'époque c'était révolutionnaire, des ordinateurs avec des écrans, puis des petits programmes interactifs, comme on voit maintenant partout, mais ça c'était il y a 20 ans, c'était beaucoup moins courant. Et ça marchait plus, c'était complètement... le prince Charles a tout foutu en l'air, il a voulu jouer avec ça, et il a tout cassé.
C'était un voyage un petit peu particulier quand même, parce qu'on a eu les grosses peurs de notre vie, là. C'est pour ça qu'on s'en souvient bien.
Non, ce qui était particulier, c'est qu'on n'arrêtait pas de dire « On est des criminels, on est des assassins, on a laissé ce pauvre gosse tout seul, on va mourir ». On a dit ça au moins 200 fois.
On a eu très peur en atterrissant à Halifax.
Tu as eu très peur.
Oui, moi j'ai eu très peur. Mais c'est vrai que j'aime déjà pas tellement l'avion. Et puis là, c'était très stressant parce qu'on était dans un brouillard à couper au couteau. Et on a vu qu'à la dernière minute, quand on arrivait sur... On croyait sur la piste et puis c'était une forêt, en fait.
On était tout près.
Vraiment, c'était impressionnant. Alors on a eu une grosse peur là, à l'atterrissage. Ensuite, on a pris un tout petit avion. On s'est dit, Dieu sait, on va se faire secouer parce que... jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais ça a été encore bien. Et puis après, comme on voulait aller dans l'île de Saint-Pierre, au sud de Terre-Neuve, on a dû prendre un de ces bateaux, un petit bateau aussi. Alors, on avait l'air... Il faisait beau, on s'est dit, chouette, ce sera une traversée sans problème, sans histoire. Et quand on est arrivé dans notre bateau, tant qu'il y avait le cap, c'était fabuleux, on pouvait rester sur le pont, regarder, c'était magnifique. Puis tout d'un coup, un des marins vient nous dire, maintenant il faut rentrer. Alors on entre et puis il faut descendre une petite échelle, on est... assez bas finalement dans ces bateaux.
Il y a des hublots, mais les hublots ils sont sous la mer.
Ils naviguent entre dessus et dessous. Alors c'est un peu stressant quand même. Et puis à peine on était assis qu'on s'est fait secouer pendant toute la traversée, mais vilainement secouer alors. Et c'est un souvenir. Toi tu t'es encore bien supporté.
Ouais. Il y avait deux vieux loups de mer bretons là, qui nous disaient, vous croyez qu'à notre âge, on va courir le risque de se noyer pour vous amener à Saint-Pierre?
Et moi je me disais, mais on va se retrouver au fond de la mer ici. Et on a laissé en Europe.
C'était un peu impressionnant parce que c'était un bateau construit exactement pour supporter les plus grosses tempêtes. Mm-hmm. C'est les tables des bateaux qui étaient fabriquées par les Norvégiens pour aller sur les plateformes pétrolières quand il n'y avait plus d'autres moyens, que les hélicoptères ne pouvaient pas y aller, que les autres bateaux ne pouvaient pas y aller. Alors c'est des espèces de. C'est des bateaux qui ont un centre de gravité très bas. Ils ne sont pas grands, il y avait 25, 30 places.
Oui,
maximum pas plus, 40. Ouais. On était une douzaine du reste.
On n'était pas nombreux, c'est ça aussi qui était inquiétant.
Ces bateaux, ils sont savatés, secoués, ils tournent, ils bougent. Mais ils sont quasiment insubmersibles. S'ils ne tapent pas contre un gros tronc ou bien contre un autre bateau, ils sont insubmersibles. Mm-hmm. Alors, une fois qu'il nous a expliqué, l'eau de mer, il nous a dit, faites-vous pas des soucis. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec mes potes pour boire l'apéro et je serai pas en retard.